tu as écouté les deux précédents épisodes, tu en sais énormément à propos du live streaming. On continue avec ce troisième et dernier épisode avec notre ami Lionel. On va lui demander ses cas d'usage lui personnellement. On est parti. Lionel, est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de tes bonnes pratiques?
Il y en a plein, mais déjà, il faut être comme toujours un peu créatif et curieux là-dedans. Il faut avoir une idée à partager. Les solutions de live stream permettent de trouver de nouvelles audiences, certes, mais ça fait pas tout. Il faut avoir l'idée. Ça vaut aussi bien en communication interne qu'en communication externe. J'ai noté quelques exemples un peu plus personnels. En interne, par exemple, c'était la réunion des top 100 du groupe avec l'équipe de direction où ils étaient partis au départ sur « on va faire un meeting Teams ». Ouais, ok, super. Ben, je les ai encouragés à tenter quelque chose de nouveau, donc avec StreamYard, et on a eu un plateau finalement, tout le monde à distance, mais je pouvais passer d'une caméra à une autre, intercaler des vidéos, faire des transitions, proposer un panel d'intervenants. On est loin du standard. On a aussi chez nous une semaine de la sécurité. On est dans un monde industriel sur l'ensemble de nos sites qui était très présentiel par le passé. Ben, cette année, on n'a pas pu le faire, donc j'ai proposé en échange, toujours en live stream avec StreamYard, des rendez-vous quotidiens en ligne et en direct de nos usines. C'est-à-dire que j'avais un de mes interlocuteurs qui avait son mobile à la main, on avait testé auparavant, et puis qui se baladait sur un site où il y avait eu un accident. Et au niveau impact par rapport à la population qu'on a eue, c'est quand même plus sympathique, enfin, sympathique c'est pas le terme, mais qu'une série de planches qui aurait sans doute été moche. On était sur le terrain et on a vraiment pu sentir la gravité de ce qui s'était passé. Les retours des spectateurs, parce qu'on fait souvent des enquêtes derrière, ils sont généralement très positifs et ils soulignent à chaque fois « waouh, ça fait pro ». C'est rigolo et en même temps, ça reste fait à la maison et j'y tiens parce que je peux pas montrer justement, il n'y a pas un carré régie derrière et j'hésite pas à montrer les coulisses aussi pour montrer que on fait au mieux pour ces utilisateurs internes. Ça m'a permis aussi de faire des présentations des solutions Office, par exemple, en alternant une présentation standard, une démonstration d'outils, en prenant les questions-réponses avec l'audience en direct. Mardi prochain, en interne, on a une personne qui fait des cours de stretching, elle va le faire en direct avec l'ensemble du personnel. Donc, on va avoir jusqu'à 2000 personnes connectées pour regarder ce cours de stretching sur notre réseau social interne avec une animatrice en direct de Stockholm. Et puis, je vais ramener des petites caméras venant d'un peu partout de la planète, de gens qui suivent et qui font cours de stretching. Malheureusement, comme je serai derrière, je vais pas pouvoir moi-même faire le stretching. C'est bien malheureux.
Ça, c'est malheureux.
Voilà, tout ça, pour moi et pour l'audience, tu as raison. Donc voilà, tout ça, je réalise avec mon couteau suisse et je le stream sur notre réseau social interne. Le nôtre, c'est Workplace, le produit de Facebook, parce que ça supporte ce RTMP. On aurait pu aussi avoir Teams, il y a une partie Teams Event qui supporte ces flux RTMP et permet d'aller un peu plus loin que la simple expérience Teams que je trouve vite limitée.
On vient de voir l'interne et en externe, tu as fait quoi ?
En externe, il y a déjà plein de choses à regarder sur YouTube, des exemples, on en a vu tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai fait des séminaires métiers, donc rencontres avec des experts du métier vers leurs clients, vers les gens de leur domaine. J'organisais des visites de salons professionnels, donc en direct d'eux. Je me baladais sur le salon en commentant en direct et puis j'allais jusqu'à notre stand interviewer. Puis le truc qui m'a bien amusé en plein confinement en novembre dernier avec un ami humoriste qui est irrésistible, je le nomme, Hugues Lavigne, je vous invite à le suivre, il fait des choses assez sympas. On a fait un quiz interactif qu'il animait en mode gentil organisateur, donc avec des invités live sur le plateau, chacun derrière sa caméra, qui répondait à un quiz. Et en même temps, toute l'audience, donc on avait jusqu'à 500 personnes, je crois, l'un des meilleurs soirs, qui venait commenter en direct et donc répondre 1, 2, 3, 4, et tout ça était suivi par un robot qui analysait les votes. Et aller donner un tableau d'honneur à la fin qui permettait aux deux meilleurs de revenir la semaine suivante en direct.
Ouais,
et puis moi, j'étais caché derrière Snapcam dont on a parlé, déguisé en chaussette. Donc voilà, donc à mes heures perdues, je fais aussi une très belle chaussette PPC si tu as besoin pour un des BBBL.
Ça donne des idées, ça donne des idées entre le linge qui va pendre et la chaussette. Je pense qu'on est bien parti. Lionel, c'est quoi la place du online dans l'événementiel?
On en a déjà parlé sur cette tribune, mais l'événementiel, il se réinvente en marche forcée actuellement et il y a plein de plateformes qui se développent pour remplacer ces grandes foires, ces grands salons et qui font la part belle au live streaming pour permettre de tenir des conférences métiers qu'on avait avant dans les grandes salles et aux commerciaux de rencontrer leurs prospects. Mais personnellement, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce domaine et que la peinture qui est proposée, elle est souvent très fraîche. vraiment trop fraîche. On est loin de ce que je proposais avant, pouvoir donner plus d'autonomie, plus de créativité à ceux qui utilisent la plateforme. Et je note d'ailleurs que le produit dont on parlait, et encore une fois, le poste n'est pas sponsorisé, un StreamYard, a été racheté récemment par Opin, qui est une des grandes plateformes d'événementiel online. Au final, quel que soit l'événement, que ce soit un cours de yoga ou le management meeting dont on parlait, bah on reprend les bonnes pratiques du présentiel quand on fait un live stream. Bah, faut l'annoncer, son événement, faut relancer les gens, encourager les partages, faut choisir la bonne accroche, la bonne illustration. Bah pour que ce soit un succès, il n'y a pas de secret. Il ne suffit pas de se lancer au moment T en live, on risque d'être tout seul sinon.
Ouais, c'est vrai, il faut trouver le moyen de foncer. D'autres conseils à partager, Lionel?
Il m'en reste un peu. Tu l'as dit tout à l'heure, PPC, ça ne s'improvise pas non plus. Enfin, ce qu'on raconte peut s'improviser, mais il faut tester le matériel dont on a parlé tout à l'heure. Il faut faire des live tests, des lives rien que pour vous, ou avec une audience très, très raccourcie, avec votre matériel. Il faut alterner les configs, changer de micro, il faut tester le rendu pour voir celui qui vous convient le mieux par rapport à l'ambiance que vous voulez faire. Et petit truc tout bête aussi, si vous partez en live dans la rue avec un smartphone, c'est mieux s'il est rechargé à 100% avant d'y aller, voire d'avoir une batterie de secours dans la poche pour pouvoir tenir la distance. On peut penser aussi aux stabilisateurs, c'est ce que j'utilisais sur les salons pour ne pas donner la nausée à mes spectateurs. Si vous partagez une présentation aussi en live, il y a beaucoup de lives comme ça, moi je conseille de se doter d'un deuxième écran pour pouvoir suivre le live et puis interagir avec l'audience, sinon on est full screen avec sa présentation, on est tout seul face à son écran et on perd ce suivi du direct. Dans les bonnes pratiques, lorsqu'il y a plusieurs personnes, moi j'ai fait une fiche conseil, très courte, c'est une page, pour mes speakers, pour les aider à se préparer, comment soigner le son, comment soigner l'image, comment ils vont se connecter, comment éviter les rayures fines, comment se placer dans le cadre. J'y pense là parce que j'ai oublié de le faire. Couper les notifications. Je pense que vous avez entendu une notif sur mon téléphone. Quand on est faire un peu plus pro, on coupe ce genre de choses. Désolé.
Il n'y a pas de souci. Ça donne un peu de fraîcheur, un peu de vie aussi. Il ne faut pas faire tout du tout lisse, donner un peu des aspérités.
Ah non.
Tu sais, moi, j'adorais quand on n'était pas confiné, ma mobylette qui venait foutre un peu le beans dans mon live.
Mais oui.
Et ça donnait de la vie aussi, c'est important.
C'est ce que les gens apprécient aussi dans ce direct, c'est ce côté imprévu et ce côté on est ensemble. Quoi. On vit un moment ensemble. Les speakers, moi, je leur impose une répétition aussi avant pour vérifier que quand même on va proposer quelque chose de qualité. Je leur impose aussi de se connecter 15 minutes avant l'événement pour faire les derniers réglages parce qu'il y a toujours un truc qui a changé. En tant que speaker pur, moi, j'aime bien préparer les grandes lignes de ce que je vais raconter. Donc, j'ai un papier en général qui traîne avec les bullet points et notamment mes lancements pour éviter justement entre le stress du départ, les caméras à régler, tout ça, de me retrouver perdu avec mon scénario. Et puis, faut tester son réseau, qu'on soit dans la rue ou chez soi. Un mauvais signal 4G ou Wi-Fi, ça va quand même nous gêner. Donc, ça m'arrive le matin de tester, de voir que le réseau n'est pas bon. Je reboote ma box et en général, ça améliore. Et puis, je fais tester aussi à mes interlocuteurs. Ils vont sur speedtest.net, un service en ligne. Et puis, on voit les résultats qu'ils ont pour valider ou pas leur participation.
Et à la maison, tu fais comment?
Alors, à la maison, c'est vrai que j'ai la fibre, mais... ça peut être défaillant de temps en temps, notamment avec le Wi-Fi. J'ai rajouté une petite solution récemment qui s'appelle Speedify. C'est un logiciel qui se rajoute sur son PC. Je ne sais pas si ça existe sur Mac. Et qui permet en fait d'agréger plusieurs connexions, un peu de faire du load balancing un peu intelligent. Et donc en fait, j'additionne la capacité de ma fibre, du Wi-Fi, d'un Wi-Fi public environnant et de la 4G. Bon, s'il y a tout qui tombe en même temps, c'est quand même que je n'ai pas de chance. Et ça évite l'écran. Si mon Wi-Fi tombe, Speedify va prendre le relais avec un autre réseau de manière transparente. Et à la fin de la journée, d'ailleurs, c'est rigolo en ce moment, je regarde combien de fois il m'a sauvé la mise. Et le chiffre est rarement à zéro, en fait.
Ah ouais, donc il prend le meilleur de chaque monde. Ok, on a parlé de l'image, tu nous as parlé un petit peu du son. Si on revient un peu sur le son, certains disent que le son, ça fait la moitié du travail lors d'un live. Tu nous parles un peu du son?
Je confirme que c'est vraiment très important. Et je suis souvent très jaloux de ton setup matinal. Parce que je trouve que ton son a une richesse. Je ne sais pas si tu donneras tes secrets. Un micro, ça choisit, ça s'adapte aussi aux conditions du live. On l'a dit, est-ce qu'on va prendre, si on est sur son mobile, un micro casque ou des oreillettes Bluetooth pour plus de mobilité, par exemple? C'est toujours mieux que le micro d'ambiance de son PC qui est quand même mal placé, qui est à côté souvent du ventilateur, on va entendre le clavier. Enfin, il faut mieux choisir des oreillettes que le micro d'ambiance du PC, à mon sens en tout cas. On va faire un peu plus chic, un peu plus riche au niveau du son, c'est peut-être ce que tu as d'ailleurs. C'est un micro de table, il y a la marque Yeti notamment qui fait des micros très, très riches en son, où il y a le Wave One d'Elgato qui donne un meilleur rendu, un peu comme beaucoup d'émissions qu'on peut voir, qu'on va connecté avec un pied articulé qu'on va mettre devant sa webcam et on va se sentir sur un plateau télé. Après, c'est joli ou c'est pas joli. Enfin, voilà, ça dépend de ce que vous voulez donner à l'image. Il faut faire attention aussi à l'endroit où l'on diffuse par rapport au son. À l'open space, c'est pas forcément le meilleur endroit, même s'il y a peu de collègues en ce moment. On va finir par les entendre ou les voir passer même. Enfin, c'est un style particulier. Une pièce dépouillée aussi, la salle de réunion sans rien, sans armoire et une chaise. C'est pas génial non plus parce que le son va résonner, c'est une cathédrale. Bah finalement, le bureau cosy avec une bibliothèque pleine de livres, bah ça c'est top parce que le son va être étouffé quelque part, mais dans le bon sens du terme, ça va être beaucoup plus riche et puis en plus ça fera un joli décor. On parle du son, j'en profite parce qu'il y a souvent un truc qu'on a envie de faire dans ces directs, c'est de passer des jingles, des bruitages, le bruit du scooter qui passe. Quand on l'a pas dans la rue, on a peut-être envie de le faire passer dans la console. Bah en fait, ça, c'est compliqué à faire parce qu'un PC ou un Mac, c'est pas une table de mixage. Quand on a son micro, on a que son micro et faire prendre le son qui sort de son haut-parleur, ça marche pas. C'est pas bon comme son. Donc, alors, en fait, il y a des solutions logicielles à rajouter sur son ordinateur. Il y a VoiceMeter sur PC, je crois qu'il y a Soundflower sur Mac qui permettent, en fait, de mixer un peu toutes les sources et de canaliser tout ça dans une seule source micro. Il y a aussi des solutions hardware. Il y a des petites tables de mixage son USB qui sont vues comme un micro où on va connecter tous ces différents micros, ces sources sur la table de mixage. Au final, on a un seul micro. Et puis, une fois que le live est lancé, avec le meilleur son possible et la belle image, il ne faudra aussi pas oublier la modération. On en a parlé. Pour la différence, c'est le public. Il ne faut pas l'oublier, le public et ses interactions avec eux. Et puis, voilà. Comment est-ce que, s'il y a un troll qui arrive, comment est-ce qu'on le détourne, comment est-ce qu'on intervient là-dedans? Se faire aider par quelqu'un, par un collègue, c'est pas une mauvaise idée. On retrouve très souvent, d'ailleurs, sur les chaînes Twitch, on voit qu'il y a les modérateurs, les modos qui sont dans le coin, qui veillent. Puis en interne, souvent, j'interviens pour aider Pierre-Paul Jacques à se connecter, à se retrouver dans le réseau social parce qu'ils sont paumés, ils sont stressés, ils ont l'impression de monter quelque chose et qu'ils vont être mal notés. Ben, voilà, on vient les aider.
Ouais, c'est vrai que c'est bon de donner quelques coups de main à ses collègues. Un petit jingle, on a vu les enjeux, de nombreux cas d'usage, de bonnes pratiques et tes coulisses. Pour aller plus loin, on parle de quoi, Lionel ?
Là aussi, pour moi, la clé pour aller plus loin, c'est d'être curieux parce que c'est un monde qui se réinvente tout le temps. Alors, on peut être devant tout le monde et on peut être suiveur et rattraper aussi tout le monde. Passer du temps sur Twitch, sur YouTube Live, sur Facebook Live, regarder comment ils font, essayer de décrypter finalement l'envers du décor. Là, je viens de voir que tu nous as lancé un jingle, donc tu dois avoir quelque chose pour le faire. Donc, je vais aller m'intéresser après à comment tu as fait. On peut aller plus loin niveau matériel aussi, rajouter une petite régie vidéo-son. Moi, j'ai la Theme Mini de Blackmagic qui est toute petite sur mon bureau. On a des boutons, on joue avec, on se sent dans le cas régie. On peut penser à rajouter un prompteur mobile pour ceux qui aiment lire des textes devant sa caméra. Il y a des solutions maintenant qui vont jusqu'à dérouler le texte tout seul en écoutant ce que vous dites. Et qui vient de suivre, ça peut être pratique. Moi, j'ai aussi rajouté sur mon bureau un petit, ça s'appelle un Stream Deck, c'est un petit lanceur d'action, c'est fait par Elgato. On appuie sur un bouton, puis là-bas, on va changer en même temps toutes les caméras, le layout, donc l'organisation de ses caméras dans son stream, jusqu'à changer les lumières LED de son décor parce qu'elles sont pilotées par l'ordinateur. Et puis on découvre aussi maintenant la réalité virtuelle qui s'attaque aussi au live stream. Il y a des concerts immersifs qui sont proposés. Je crois qu'il y avait Jean-Michel Jarre en direct qui faisait un événement live streamé en réalité virtuelle pendant les dernières fêtes. On voit des salles de cinéma virtuelles aussi, avec chacun son casque sur la tête dans une salle virtuelle, où on se retrouve assis à côté d'un avatar du bout du monde, où on se retrouve même parfois assis à côté de Christian ou de moi-même. Christian, je crois que t'es dans le coin, à regarder un film ou à écouter un autre avatar pitcher son projet. Ça, c'est bien assez curieux tout ça. Facebook est sur le créneau d'ailleurs avec son Oculus Quest dont on a parlé et son futur univers s'appelle Horizon. Et on peut imaginer toutes les expériences de live stream à suivre. Donc peut-être que le Camelot, non content d'être sur live stream, sera aussi un avatar de Camelot plus tard. Tout ça, c'est joli. Il y a aussi le modèle économique qui n'est pas finalisé pour moi, pour les acteurs du live stream, pour ne pas cantonner finalement sur live stream à juste quelque chose de promotionnel où les euros vont tomber à la fin du live stream et peuvent aussi tomber dedans. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment là-dessus. On a parlé de TipJar récemment sur Twitter. Et puis tout ce qui se passe en Chine, que je citais tout à l'heure, je ferai le billet, je mettrai les liens, les chiffres sont hallucinants, ça laisse à penser que ce mouvement ne va pas s'arrêter avec la fin du confinement.
Dis donc, mille merci Lionel. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. C'est promis, il n'y aura pas un billet, mais il y aura deux billets. On va le couper en deux parties. Ça sera disponible sur ledigitalpourtous.fr. Un grand merci Lionel.
Merci à toi PPC.
Merci. À vous Cognac G les amis.
Merci à tous.
Salut.